monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 27 septembre 2024. Israël lutte pour sa survie, a déclaré aujourd'hui Benjamin Netanyahou à l'ONU. En Haïti, plus de 3500 personnes ont été tuées depuis janvier, selon l'ONU. Hélène, l'un des ouragans les plus puissants à frapper les États-Unis, a causé la mort d'au moins 17 personnes sur son passage. Interpellation en Norvège de Lucas Shoayaba, chef des forces de défense de l'Ambazonie, un des groupes armés opérant dans les régions anglophones du Cameroun.
Il va sans dire que Ayabacho Lucas a créé certes des groupes sur le terrain, mais sur lesquels il n'avait plus véritablement d'emprise. Donc aujourd'hui, cette interpellation est une victoire pour le Cameroun sur le plan symbolique.
Raoul Soumo-Tayo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, nous en dira plus dans la partie magazine. Dans l'ouest du Soudan, 18 personnes ont été tuées sur un marché d'El Fasher lors d'une attaque des forces de soutien rapide. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'en prend à l'ONU, accusant l'organisation d'être devenue une farce méprisante, traitant son pays de façon injuste. Direction New York, où les discours du débat général se poursuivent à la tribune des Nations Unies. On y retrouve en direct Alexandrine Ollognon, envoyée spéciale de la VOA. Bonsoir Alexandrine.
Bonsoir Jean-Roger Billon, vous l'avez dit, Netanyahou a commencé par dire à la tribune de l'ONU « Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année, mon pays est en guerre, mais j'ai décidé de venir pour corriger tous les mensonges qui se disent à propos d'Israël. Israël veut la paix, Israël appelle la paix, Israël a déjà fait la paix et recevra la paix », a martelé Benjamin Netanyahou tout en promettant de se battre jusqu'à la victoire totale à Gaza. Je vous propose un extrait de ce discours.
All that has to happen.
Il suffit que le Hamas se rende, dépose des armes et libère tous les otages. Mais s'il ne le fait pas, nous nous battrons jusqu'à ce que nous obtenions la victoire totale. Il n'y a pas d'autre solution.
À propos du Liban, Netanyahou a assuré que les opérations contre le Hezbollah libanais vont se poursuivre également. Si vous nous frappez, nous vous frapperons, a-t-il aussi déclaré en direction de l'Iran. Netanyahou a aussi dénoncé à plusieurs reprises l'ONU comme étant anti-israélienne. Écoutez.
Jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce que ce marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée pour les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante.
Ce discours a été prononcé dans une ambiance quelque peu particulière ce matin. Le président de la 79e session, Philemon Yang, a dû réclamer le silence à plusieurs reprises dans la salle, alors que Netanyahou s'avançait vers la tribune. Ses propos ont été accueillis par les huées de certains délégués qui sont sortis même de la salle et par des acclamations et applaudissements d'autres qui soutiennent certainement Israël. Jean-Roger.
Alexandrine Ollognon, envoyée spéciale VOA Afrique à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a réagi. Il a dénoncé ce vendredi les mensonges éhontés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de son discours devant l'ONU. Le dirigeant israélien poursuit ses mensonges et intensifie ses menaces contre les peuples de la région tout en poursuivant son cycle de crimes pour inclure le Liban, a accusé le Hamas dans un communiqué. Les Nations Unies ont exprimé leur vive inquiétude après des frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth. L'ONU observe cela avec une vive inquiétude, a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Plusieurs chaînes de télévision israéliennes affirment ce vendredi soir que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était la cible de la frappe aérienne israélienne menée un peu plus tôt sur le quartier général du mouvement islamiste armé dans la banlieue de Beyrouth. Selon Israël, la frappe précise a visé le quartier général du mouvement islamiste pro-iranien. Et selon une source proche de la puissante formation armée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est indemne. À New York, Donald Trump et Vladimir Zelensky se sont rencontrés ce vendredi lors d'une entrevue délicate au vu des critiques répétées du candidat républicain sur l'aide américaine massive à l'Ukraine en déplacement aux États-Unis depuis dimanche. Le président ukrainien a parlé avec l'ancien président américain. Il a assuré du soutien, mais évidemment inquiet pour l'avenir de l'aide à son pays en cas de victoire de Donald Trump à l'élection du 5 novembre. Le maire démocrate de New York, Eric Adams, inculpé pour corruption, a plaidé aujourd'hui non coupable. Il est notamment poursuivi pour une affaire de corruption en lien avec un financement illicite de sa campagne présumée. Eric Adams, un Africain-américain et ancien policier, est le premier maire de New York en exercice à être inculpé au pénal. Direction Haïti, plus de 3600 personnes ont été tuées depuis janvier à cause de la violence des gangs. L'ONU pointe du doigt le manque d'équipement et de personnel de la mission multinationale de la police. Le point avec Rosine Monizero.
L'ONU souligne qu'au moins 3661 personnes ont été tuées en Haïti depuis janvier, maintenant des niveaux de violence élevés en 2023. Nous tirons la sonnette d'alarme et les appels humanitaires souffrent d'un sous-financement chronique, a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat Ravina Shamdasani. Les armes et les munitions continuent d'affluer dans le pays, principalement via les États-Unis, mais aussi la République dominicaine et la Jamaïque, a détaillé Mme Shamdasani. Dans son rapport, l'ONU détaille de graves violations et d'abus de droits humains dans la capitale Port-au-Prince et dans le département d'Artibonite, ainsi que dans la partie sud du département de l'Ouest, qui, jusqu'à récemment, a été largement épargnée par la violence. La violence et l'extorsion croissante par les gangs forcent les agriculteurs à abandonner leurs terres, alors que l'ONU estime que 1,6 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.
Ici aux États-Unis, au moins 11 personnes sont mortes en Géorgie et 5 en Floride après le passage de l'ouragan Helene. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
De Tallahassee, capitale de la Floride, à Charlotte, en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines et des chutes d'arbres. Sur la côte nord-ouest de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations. Selon le site poweroutage.us, près de 4 millions de personnes sont privées d'électricité en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. Dean Criswell, patronne de la FEMA, l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles, a déclaré avoir fait près de 600 sauvetages, ajoutant que la menace n'est pas terminée et que la situation est toujours dangereuse avec des risques d'inondation du côté d'Atlanta en Géorgie. L'ouragan Helene s'est affaibli pour devenir une tempête tropicale lors de son passage vers l'intérieur des terres, allant de catégorie 4 à 1 avec des vents soufflant à 95 km/h.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police gambienne a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un journaliste qui avait rapporté que le président envisageait de quitter le pouvoir. Mamoudou Darbo a écrit un article publié lundi dans le journal The Voice affirmant que le président Adama Barrow travaillait sur un plan de sortie avant l'élection de 2026. Jeudi, la police a arrêté M. Darbo et le rédacteur en chef du journal, Moussa Chérif. M. Chérif a été libéré sous caution tandis que M. Darbo a été inculpé de publication mensongère et de diffusion de fausses nouvelles. 18 personnes ont été tuées sur un marché d'El Fasher dans l'ouest du Soudan lors d'une attaque des forces de soutien rapide. La situation au Soudan a fait l'objet de discussions cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dili Diko.
Les forces de soutien rapide ont bombardé jeudi soir un marché de cette ville située dans la vaste région du Darfour, d'après le comité local de résistance. Nous avons reçu la nuit dernière 18 cadavres, a indiqué une source qui a requis l'anonymat au sein de l'hôpital universitaire d'El Fasher, ville assiégée depuis plusieurs mois. Par ailleurs, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué hier Khartoum, où l'armée s'est livrée à de violents combats contre les FSR. Mohamed Hamdan Daglo, chef des paramilitaires, a diffusé hier soir une vidéo s'adressant à l'Assemblée générale de l'ONU quelques heures après qu'Abdel Fattah al-Burhan, à la tribune de l'ONU, a accusé les FSR d'entraver les efforts de paix. Monsieur Daglo a affirmé être ouvert à toutes les initiatives visant à instaurer la paix. La veille, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part au chef de l'armée soudanaise de son inquiétude concernant l'escalade du conflit. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 10 millions de personnes.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a promis jeudi des enquêtes sur la corruption généralisée, sévissant selon lui sous l'ancien pouvoir en place avant avril 2024 et qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Le régime de Macky Sall a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière, qui n'a rien à voir avec la réalité, a dit M. Sonko. La Banque centrale du Ghana a abaissé son taux d'intérêt principal de 200 points de base, le faisant passer de 29% à 27% vendredi. Il s'agit de sa première baisse de taux depuis janvier, après que l'inflation a chuté pour le cinquième mois consécutif en août. Le gouverneur de la Banque du Ghana a déclaré que la désinflation est en cours et que l'inflation continuera à se rapprocher de l'objectif à court terme de 13 à 17% pour l'année. Le Zimbabwe aurait dévalué sa nouvelle monnaie ZIG, adossée à l'or de 44% par rapport au dollar américain, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant quatre négociants du Trésor. Le rapport indique que le ZIG est passé de 14 à 25 dollars.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Football, saison terminée pour le milieu de Manchester City, Rodri.
L'Espagnol Rodri, milieu défensif élément clé de Manchester City, a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit dimanche dernier contre Arsenal en championnat d'Angleterre, a annoncé ce vendredi son entraîneur Pep Guardiola. Il s'est fait opérer ce matin, sa saison est terminée, il reviendra pour la prochaine, a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. Son forfait constitue un véritable coup dur pour Manchester City. La semaine dernière, Rodri avait dénoncé l'accroissement du nombre de matchs par saison, soulignant les conséquences sur la santé des joueurs ainsi que sur la qualité du jeu pratiqué. Le buteur en finale de la Ligue des Champions 2023, remporté pour la première fois par les Citizens, n'a perdu qu'un de ses 84 derniers matchs en club et en sélection.
Litige Mbappé-Paris Saint-Germain, l'appel du club examiné par la Ligue le 15 octobre.
Le PSG et Kylian Mbappé ont rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel le 15 octobre. Après l'appel du club dans l'affaire des 55 millions d'euros de salaire impayé que lui réclame son ancienne star. En fonction de ce que décidera cette commission paritaire, plusieurs autres recours sont possibles. L'attaquant star a été alors mis à l'écart de l'équipe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent d'un transfert alors que Mbappé s'est engagé libre avec le Real Madrid au terme de la saison passée. Dans cet accord, le joueur s'engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison, ce qu'il a donc fait.
Ligue des champions, le Barça privé de supporters à Belgrade pour une pancarte raciste.
L'UEFA a condamné ce vendredi Barcelone à évoluer sans supporters lors de son prochain match de Ligue des champions à l'extérieur et à s'acquitter d'une amende de 10 000 euros pour une pancarte raciste exhibé par certains de ses supporters à Monaco le 19 septembre. Le Barça respectera et appliquera cette sanction lors du match de la quatrième journée de l'UEFA Champions League contre l'Étoile Rouge à Belgrade, a-t-il réagi dans un communiqué.
Brésil, la première coupe des peuples indigènes sur orbite.
Plus de 2400 membres de 48 ethnies autochtones du Brésil vont participer à partir de novembre à la première Coupe des Peuples Indigènes, un tournoi au long cours dont le tirage aura lieu jeudi à Rio de Janeiro. C'est plus qu'une simple compétition sportive, cela représente le combat pour un avenir fait de plus de dignité, de respect et d'inclusion, a déclaré le président de la Confédération brésilienne de football, soutien institutionnel du projet.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition des armées congolaises et ougandaises a annoncé avoir neutralisé 59 combattants des forces démocratiques alliées, les ADF, affiliés au groupe État islamique. C'était pendant des offensives menées sporadiquement depuis le mois d'avril, davantage avec Zanem Neti Zaidi.
Des combattants ADF ont été neutralisés lors d'affrontements dans certains villages des territoires de Beni, Mambasa et Lubero. Ces opérations, menées conjointement par les armées congolaises et ougandaises, ont également permis la libération de plusieurs civils auparavant retenus en otage. Information fournie par les forces armées de la RDC qui indique également que les combattants ayant recherché des affrontements dans la région de Beni cherchent à se réfugier dans les territoires de Mambasa et dans une partie du secteur de Bapere à Lubero. Le lieutenant-colonel Makazukai est le porte-parole des opérations Sukula 1 Grand Nord.
L'ennemi a migré à l'ouest et depuis nous avons projeté des patrouilles, nous avons réussi à neutraliser une cinquantaine. Il y a eu des compatriotes qui ont été extraits aussi des griffes de l'ennemi.
Paluku Kambesa est sorti de la brousse mercredi. Il avait été enlevé par les ADF dans son champ à Mobisio. Pendant sa semaine de captivité, il a été utilisé pour transporter le butin et les combattants blessés lors des affrontements. Il a réussi à s'échapper lors des frappes des forces de la coalition FRDC-UPDF sans connaître le sort de ses co-otages.
Je suis sorti hier. Nous avons traversé la brousse jusqu'à un champ, une petite ferme. C'est là que nous avons passé la nuit. Le matin, les balles ont continué à pleuvoir et c'est en fuyant que je me suis échappé. Mais nous étions nombreux, une centaine, et chacun a fui dans sa propre direction. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'ils sont devenus.
Depuis la mi-juin, les ADF ont multiplié les incursions dans certains villages du secteur des Bapere, dans les territoires de Lubero. Ils sont arrivés dans la région en menant des raids du côté des Mambasa et des Beni. Ils sont accusés d'avoir tué des centaines de civils, pillé et incendié des maisons. Et Tumba Maria Buana de la société civile des Bapere.
Le bilan est lourd car l'ennemi a commencé à Maïkengu, Mabete, Yelumbe, à Baswa, vers Changan. Car même notre coordinateur de la nouvelle société civile locale a été tué. Ils ont tué plusieurs personnes à Midede, Bandoulou et dans les carrières minières autour d'Atendele.
Les forces armées de la RDC mènent des opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans les territoires de Beni, Mambasa et Lubero. Ces affrontements ont entraîné des déplacements des populations. Plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique. Goma.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Lucas Shoayaba, chef des forces de défense de l'Ambazonie, l'un des principaux groupes armés opérant dans les régions anglophones du Cameroun, a été interpellé mercredi par la police norvégienne. Il est soupçonné d'incitation à commettre des crimes au Cameroun. Eric Manirakiza a joint Raoul Soumo-Tayo, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Lucas Shoayaba est connu, c'est l'un des leaders de la mouvance indépendantiste anglophone. C'est un ancien étudiant de l'université de Boya qui, à la suite d'une grève, a été exclu de cette institution, s'est réfugié en Allemagne, puis en Norvège où il a repris des études. Il est, comme je le disais tout à l'heure, à la tête de l'une des multiples mouvances qui justement anime l'insurrection dans les régions anglophones du pays. Il est connu des autorités, il est connu également du public par ses positions tranchées sur les réseaux sociaux. Il a revendiqué quelquefois des attaques opérées en territoire camerounais. Mais au sein de la mouvance indépendantiste, il est contesté par certains. Il a à un moment donné été accusé à tort, vraisemblablement, d'acquaintance avec le régime de Yaoundé, d'être un pion du régime. Voilà, mais de manière générale, tous ceux qui s'intéressent au Cameroun, de manière générale, connaissent le personnage.
Depuis quand il est devenu, disons, actif dans la lutte, est-ce que son arrestation va avoir un impact quelconque sur le terrain?
Il est actif dès le début même de l'insurrection, depuis 2017. Il est actif sur le terrain, il soutient des groupes sur le terrain. Mais vous savez, je doute très fort que sur le plan purement tactique, que son interpellation change les choses. Il faut peut-être rappeler à vos auditeurs que le premier leader unanime qui faisait l'unanimité de la mouvance anglophone, Sissouk Aïou Tabé, avait été interpellé au Nigeria, puis extradé au Cameroun. Ça n'a pas changé les choses, bien au contraire, ça a conduit à une désorganisation du groupe avec l'émergence de nombreux groupuscules. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'identifier un interlocuteur justement dans le cadre de négociations. Donc c'est un des résultats ou bien un des effets pervers de l'interpellation du premier leader. Donc il est très fort probable que cette interpellation aussi produise les mêmes effets. Ce type de groupe est structuré de telle manière que l'interpellation d'un des leaders ne conduise pas nécessairement à la fin des opérations. Il va sans dire que Ayabacho Lucas a créé certes des groupes sur le terrain, mais sur lesquels il n'avait plus véritablement d'emprise. Vous avez de nombreux groupuscules qui se sont criminalisés et qui aujourd'hui mènent juste d'une certaine autonomie. Donc, je ne pense pas, mais tout au plus, il y a la dimension symbolique. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette interpellation est une victoire pour le Cameroun sur le plan symbolique, en ce sens que ça pourra dissuader, justement, les nombreux autres activistes qui, justement, aux États-Unis et dans les autres pays, pourraient lever les fonds et encourager, justement, soutenir au moins idéologiquement l'insurrection sur le terrain. Mais sur le plan purement tactique, cette interpellation n'aura pas grand effet, c'est d'autant plus que les groupes sur le terrain se sont autonomisés entre-temps.
Raoul Soumbotayo, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Cette semaine, lors des réunions de l'ONU à New York, les États-Unis ont déclaré que deux pays africains devraient avoir des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Kate Barlett de la VOA à Johannesburg, en Afrique du Sud, a interrogé des analystes sur cette proposition pour savoir si elle constitue un geste de Washington pour marquer des points dans le cadre de sa compétition avec Pékin en Afrique. Le récit est de Jacques Aristide.
Depuis des années, de nombreux dirigeants africains réclament que le continent soit représenté au Conseil de sécurité de l'ONU, qui depuis la Seconde Guerre mondiale ne compte que 5 membres permanents, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Cette semaine, le président américain Joe Biden a apporté son soutien pour 2 sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, mais ces nouveaux membres africains n'auraient pas de droit de veto. Pour l'analyste kényan Cliff Mboya, l'idée n'est pas bien accueillie en Afrique.
Nous avons déjà vu beaucoup de réactions négatives, comme si c'était une grosse blague. La question est de savoir à quoi sert de rejoindre le Conseil de sécurité si vous n'avez pas de droit de veto. Qu'irez-vous y faire ?
Cela pourrait jouer en faveur de la Chine, car elle se positionne depuis longtemps comme un pays en développement et un leader de ce que l'on appelle désormais le Sud global, tout en dénigrant l'Occident pour son passé colonial, ajoute Mboya, chercheur au Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg.
Je ne pense donc pas que cela aide les États-Unis et l'Occident en termes de perception et de discours. Et cela ne fera qu'encourager les pays africains à pencher davantage vers l'Est, parce que cela ne fait que témoigner de l'hypocrisie. La Chine a été capable, vous savez, de construire cette coalition des pays émergents et en développement contre l'ordre mondial dirigé par les États-Unis et l'Occident.
Paul Nantoulia, chercheur associé au Centre africain d'études stratégiques, est d'avis que l'annonce est une victoire pour la diplomatie américaine et qu'elle sera accueillie favorablement par les pays africains, car elle ouvre la porte à de nouvelles négociations.
Regarding China, En ce qui concerne la Chine, elle a été, vous savez, un peu sur la défensive. Donc, sur le plan rhétorique, la Chine a dit tout ce qu'il fallait en soutenant ce qu'elle appelle les intérêts légitimes de l'Afrique au sein des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais pour Nantulia, le plan de Pékin est flou.
S'agissant des détails spécifiques, à savoir si la Chine soutient une représentation africaine permanente au Conseil avec un droit de veto, la Chine n'a pas articulé de position.
Parmi ceux réunis à New York cette semaine pour réclamer une réforme de l'ONU figure le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique et ses 1,4 milliard d'habitants demeurent exclus de ses principales structures de prise de décision, a-t-il déclaré. Le secrétaire général de l'ONU a également appelé à une réforme. Antonio Guterres estime que le Conseil de sécurité n'a pas suivi le rythme d'un monde en évolution et que l'Afrique est sous-représentée. Certains craignent que la déclaration américaine ne soit que rhétorique et aucun calendrier n'a été donné pour l'instant concernant les prochaines étapes. Selon les règles de l'ONU, tout changement dans la composition du Conseil de sécurité nécessiterait l'approbation des deux tiers de l'Assemblée générale, y compris des 5 membres permanents.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été inculpé pour financement illégal de campagne et de corruption. Dévoilé jeudi, l'acte d'inculpation du parquet fédéral de Manhattan mentionne notamment des faits de fraude électronique et l'acceptation de pots de vin versés par un responsable turc. Pour une analyse de cette actualité, Dili Diko a joint à New York Daniel Di Salvo, professeur de sciences politiques au Collège universitaire de New York.
Ça arrive après 2 semaines de résignation des le chef de police, le chef des écoles publiques. Donc, c'est vraiment une crise pour le maire de New York.
Eric Adams dit être pressé de pouvoir se défendre devant la justice. Va-t-il arriver à le faire en même temps que tenir les rênes de la ville de New York, une ville de 8,5 millions d'habitants?
C'est d'être le maire de New York, c'est un travail très difficile dans les temps normaux. Donc, dans des temps de crise, est encore pire. Est vraiment difficile d'être à la fois défendant dans un processus judiciaire et aussi maire de New York. Alors, il dit qu'il va l'essayer, mais c'est, pour ma part, j'imagine que c'est presque impossible de faire les deux choses en même temps. Non seulement parce que c'est difficile de travailler dans sa propre défense avec ses avocats et de faire tout le travail de la ville de New York, mais ça va être très difficile pour Adams de recruter des gens pour travailler dans son administration. Donc son équipe aujourd'hui est en crise. C'est pas les meilleures situations. Les charges sont très systématiques, qui datent presque 10 ans d'un système d'influence de la gouvernement turc et des reçoirs des autres cadeaux, etc.
Les appels à la démission se multiplient. Pensez-vous que le maire démocrate pourra tenir face à la pression, en particulier en cette année électorale où les deux camps, démocrates et républicains, sont très scrutés?
Il est possible que le gouverneur de New York, Kathy Hochul, qu'elle a le pouvoir de retirer le maire de New York de son siège, donc... Ça, c'est aussi possible si Adams n'est pas démissionné lui-même. C'est possible aussi que le gouverneur va le quitter de le pouvoir.
Daniel Di Salvo, professeur de sciences politiques au Collège universitaire de New York. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook. YouTube, la plateforme X, Instagram, pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.